Sarah Guibaudot. Il est question ce matin des biens mal acquis. Cela fait un mois que Théodorin Obiang a été condamné à Paris. Théodorin Obiang, on peut le rappeler, c'est l'extravagant héritier de la Guinée équatoriale qui dévalisait les boutiques de l'avenue Montaigne, qui stockait une douzaine de voitures de luxe dans son hôtel particulier de l'avenue Foch. L'ONG Transparency International appelle aujourd'hui à rendre les biens mal acquis aux populations de leur pays d'origine. Alors la question, Sarah, est-ce que c'est faisable?
Eh bien, d'autres pays se sont lancés dans cette démarche. Le Royaume-Uni, l'Australie et surtout les États-Unis et la Suisse. La Suisse veut se débarrasser de sa réputation de grande lessiveuse de l'argent sale et elle est même à l'avant-garde. Elle a commencé dans les années 90 à faire un peu de ménage dans les coffres de ses banques, raconte Éric Martin, le président de Transparency International Suisse.
Tout a commencé à l'époque de Imelda Marcos, c'était l'épouse du président des Philippines qui était extrêmement corrompue et qui avait placé sur la place financière suisse des fonds. Ensuite, d'autres potentats ont placé de l'argent. Un des plus connus, les sommes les plus importantes, c'était Abacha, le président du Nigeria. Nous avons créé plusieurs bases légales pour la restitution des avoirs. Ça nous a permis justement de restituer 1,7 milliard de francs aux pays lésés.
Des francs suisses, soit 1,5 milliard d'euros restitués. Alors il faut un accord de principe avec le pays d'origine, ce qui est plus facile si le régime a changé. En général, l'argent finance des projets humanitaires. Pour la juriste Maude Perdriel-Vessière, qui travaille sur ce sujet pour Transparency International, le cas le plus exemplaire est celui du Kazakhstan, pays par ailleurs mal noté en matière de corruption, ce qui n'a pas empêché la restitution de l'argent caché en Suisse.
La chose intéressante, c'est que le Kazakhstan était parti à l'accord, mais que malgré tout, il n'avait aucun accès aux fonds qui ont été restitués, ni aucun droit de regard sur la manière dont ils étaient utilisés. Cet accord a donné lieu à la création d'une fondation qui a déployé un certain nombre de projets de développement au Kazakhstan. Il y a un site internet qui existe où vous avez tout le détail, centime par centime, de la manière dont les fonds ont été utilisés, avec la supervision de la Banque mondiale. Donc ça a été géré de manière extrêmement rigoureuse. C'est le précédent le plus ambitieux et le plus abouti en matière de restitution.
Donc si je comprends bien, avec la Guinée équatoriale, c'est plus compliqué.
Oui, alors la justice américaine s'est intéressée avant la justice française au train de vie somptuaire du fils du président, qui dans sa jeunesse a vaguement suivi un cursus universitaire à Los Angeles entre deux séances de shopping. En 2014, Théodorin Obiang conclut une transaction avec le département de la justice. La vente de sa propriété de Malibu doit revenir à la population équato-guinéenne. Le problème, c'est qu'à ce jour, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur le choix de l'organisation caritative. La situation semble bloquée. En France, Théodorin Obiang attend son procès en appel. En première instance, le 27 octobre, il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à la confiscation de ses biens, quelques 150 millions d'euros qui, en l'état actuel du droit français, ne peuvent revenir qu'au trésor public. C'est ce que Transparency appelle à changer.
Et on dit donc Théodorin Obiang.
Ah, oui, parce que
d'accord.
Pas, bon. Au procès, on disait comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu idiot. Non, à français, je pense que vous pouvez dire Théodorin, il n'y a pas de problème.
Ça ne vous a pas choqué. Merci Sarah Guibaudot du service police-justice de France Inter. On retrouve votre prétoire et puis au passage toutes les chroniques de cette tablée sur franceinter.fr.